Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Vous êtes sur RMC, c'est le Super Moscato Show et on prépare tranquillement notre réveillon de Noël en écoutant les meilleurs moments du Super Moscato Show.
Vous cuisinez, peut-être vous ouvrez les huîtres là en ce moment en train de nous écouter. Faites attention en ouvrant les huîtres, Pierrot, tu sais que c'est un des accidents domestiques les plus courants pendant Noël.
Et alors Adrien, dans sa hotte, le plus beau des cadeaux pour Noël,
journal moyen.
Il sera ouvert à 16h45.
La fameuse viteuse. Si vous ne savez pas ce que c'est la viteuse de Vincent Moscato, vous allez rire, vous allez vous marrer dans votre voiture, dans votre cuisine à la maison. C'est à 16h45.
Voilà, vous prévenez toute la famille à 16h45. On écoute le Moscato Show tous ensemble, on rigole un bon coup et on se remet à éplucher nos pommes de terre, nos poireaux, nos oignons.
Elle est bien cette expression, on rigole un bon coup.
Voilà. Et puis vous pouvez ouvrir une petite bouteille, toujours avec modération.
Modération,
bien entendu, pour fêter tout ça. Alors d'abord, on parlera du PSG à 16h30. Le PSG est la dynastie, plusieurs Ligues des Champions d'affilée. Et puis à 17h, c'est Gaël Monfils. Monfils est-il celui qui laisse le plus de regrets selon vous? Avant 17h, il y aura également un vice-champion du monde de boxe. Et puis l'obligation ou pas de jouer au Stade de France pour l'équipe de France de foot. Mais
et
tout de suite,
et le Kikadi pour terminer en beauté, un match très serré à 17h45.
On démarre avec les coachs qui se font virer en début de saison. Est-ce la bonne solution?
RMC, le Super Moscato Show.
Le siège éjectable,
je m'en fous,
a fait son apparition dans les avions de chasse.
Mais les fucking boots au début.
Au début des années 40.
J'offre toujours une bonne bouteille de cristalline.
Et c'est aujourd'hui un véritable concentré de technologie.
Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent.
Tout à fait.
On trouve tout d'abord le système propulsif qui assure l'éjection.
J'ai un plein le cul.
Qui est meillé? C'était meillé.
Ah bon?
Situé entre les jambes du pilote.
Moi j'ai plein le cul de ça quoi.
Il y a bien sûr la poignée d'éjection.
Mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider.
Ce système déclenche aussi l'éjection du siège arrière.
Ça fait chier tout le monde. Tout le monde ça fait chier.
Il ne faut que 2 secondes.
We fucking got this.
Entre le moment où la poignée est actionnée.
Plus haut, on va nous élever.
Et le déploiement du parachute.
Non, non, mais je vais pas rentrer là-dedans. Ça vous donne du pain à moudre
oui,
là-dedans.
Breaking news.
Pain à moudre, oui, ça, oui.
Pain à moudre. Alors, Franck Azema a sauté à Perpignan. Le poste d'Habib Bey à Rennes ne tient qu'à un fil. En Italie, c'est terminé pour Igor Tudor à la Juventus. Virer un coach, est-ce la solution? Vincent, je sais que tu as parlé de ça avec un grand coach ce week-end, 32-16. Alors, à la Juve, Tudor, c'est en 24 matchs, une moyenne de 1,58 points par match, ce qui est moins bien que son prédécesseur Thiago Motta qu'il avait remplacé en mars 2025. Donc ça a été express. Azema, on le sait, c'est 0 point en 8 journées avec Perpignan et Habib Bey. Alors Habib Bey, ça jouait l'Europe et pour l'instant ils sont en milieu de classement avec des résultats très décevants puisque Rennes est 10e. On est sur place avec Xavier Grimaud qui sort tout juste de la conférence de presse d'Habib Bey. Salut Xavier.
Comment il va?
Salut à tous.
Voilà, Grim.
Habib Bey est en sursis pour un match.
Oui, exactement. Habib Bey qui reconnaît être passé très près de la mise à l'écart du Stade Rennais. Alors, ces résultats, tu les as rappelés. Les Rennais qui sont en milieu de tableau, 4 matchs nuls de suite et la défaite dimanche dernier à Nice avec aussi un contenu qui laisse à désirer à part peut-être la dernière demi-heure. Donc forcément, on l'a même annoncé viré hier. Fausse information en tout cas, puisqu'a priori, on ne lui aurait jamais annoncé proprement dit qu'il était viré avant de changer d'avis. Mais la question s'était posée et un rendez-vous avec les dirigeants a un peu tout changé. Écoutez ce qu'il en disait à Habib Bey, il a été assez clair en conférence de presse tout à l'heure.
Je pense qu'elle a été posée, par moments elle a été même arrêtée. Et peut-être qu'aujourd'hui des gens croient encore en ce qu'on veut faire et en ce qu'on est ici au Stade Rennais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné ça devait s'arrêter, ça a continué parce que des gens pensent encore qu'on a l'énergie pour changer la dynamique actuelle, tout simplement. Et aujourd'hui je ne travaillerai jamais dans une logique d'ultimatum. Mon devoir c'est de faire en sorte que cette équipe gagne demain à Toulouse.
Alors ultimatum, bon ça y ressemble hein, vraiment parce que tout autre résultat qu'une victoire à Toulouse et Habib Bey sauterait, c'est quasiment une certitude, on le voit mal que pouvoir continuer après même si Rennes jouera très vite dimanche contre Strasbourg. Habib Bey qui a aussi pas prôné la patience, mais ça servira un peu votre débat, en disant qu'il était persuadé avec l'équipe qu'avait Rennes, avec les joueurs qu'avait Rennes, avec la jeunesse qu'avait Rennes, que cette équipe pouvait donner des choses si on laissait le temps un peu aux choses de se faire, avec ou sans lui. a-t-il dit. Évidemment, il aurait pu plaider un peu plus fort sa cause, peut-être. Mais voilà, il fait que la date de péremption est proche pour Habib Bey et qu'il faudra vraiment une série de victoires assez forte pour qu'il puisse se maintenir en poste.
Merci Xavier. Toulouse-Rennes, c'est demain soir, 21h05.
C'est pas un ultimatum, mais...
Oui, là, ça
les mecs ont une façon de protéger leur vie, de l'embellir en ne disant jamais la vérité. C'est un ultimatum, il a un match pour se refaire.
Mais c'est bizarre, quand des gens ont décidé autrement, on a l'impression que c'est la famille Pinot qui pour l'instant l'a sauvé. Parce qu'il dit, c'était fait en interne, j'étais viré, mais des gens décidaient que ça pouvait durer un peu plus.
Il y a eu une espèce de modus vivendi entre la famille Pinot et le sportif pour justement faire un truc. S'il perd, c'est une ultimatum. Je te disais, les mecs ont une façon de dire le truc, de s'arranger avec les mots. C'est un ultimatum, papa. T'as un match. Si t'es pas, tu gagnes pas tes fessés. Alors il a encore le parachute, puisqu'on parlait de siège éjectable. Lui, il a encore le parachute par rapport à Tudor et à Azema. Lui encore, tu vois, la toile est encore un peu tendue, le sol se rapproche, attention, ça va vite arriver. Le sol toulousain. Donc lui, il va dégager, sûrement parce qu'ils vont pas gagner à Toulouse. Après, Azema vire un coach. Pierrot, j'attaque ou...
Oui, tu attaques, bien sûr.
Pierrot, ça a commencé l'émission.
Oui, oui.
On attendait une fulgurance, justement.
Oui, monsieur Pierrot.
C'est ça.
Pascal Pro, chez Pascal Pro.
Incroyable. Et donc, virer le coach, comment veux-tu faire autrement? Tu pourrais te dire, allez, on vire le... Au rugby, je vais parler, on va virer le... L'épine dorsale qui était chère à Bernard, le 2, le 8, et les contrats, comment on fait? Donc 4, 5 mecs. On pourrait dire les responsables, le capitaine, ben je te dégage. Mais capitaine, sur 15, ça va pas faire grand-chose. Alors que t'attends le leader, le mec qui arrive, boum, le leader, le chevalier blanc, c'est moi le chevalier blanc qui arrive, l'épée en avant, et qui remet tout le monde dans le coma, et qui remet une espèce d'humeur, un truc qui déclenche quelque chose. Ça marche souvent. Souvent, ça marche. Alors après, ça dure pas toujours.
Ça marche sur 2-3 matchs.
Mais quand t'en as besoin des 2-3 matchs, t'as que cette solution. T'as pas autre chose à faire. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas virer, je t'ai expliqué. Tu peux pas virer le 2, le 8, le 9, le 10, parce qu'ils ont failli au résultat sportif.
Oui, mais pourquoi?
Alors
oui,
ce serait eux. Mais parce que tu ne peux pas virer autrement.
Pourquoi pas le garder?
Non, parce que... Excusez-moi, le coach a un ascendant sur le groupe qui est important. C'est le capitaine, c'est celui qui monte à l'échelle dans la tranchée. C'est lui qui va mener.
Donc pour toi, Franck Azema, c'est normal de le sortir aujourd'hui. C'est pas super.
Je vais te dire,
c'est pas aussi frais que le foot.
Écoute-moi, ma poulette. Je vais même te dire un truc. Je crois que c'est un peu tard. 8 matchs. Oui. Je vais te dire un truc. Et je sais, et tu as raison de dire que dans le rugby, ça se fait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont tardé. Parce qu'ils ont du mal dans le rugby à virer les coachs. Ils ont du match. Mais au football, ils auraient été virés déjà depuis 2-3 matchs. Bon, alors, il sait jamais. Il n'y a jamais de généralité. On peut pas dire ça.
14 ans. Mais c'est quoi? Il reste plus de 14 ans à Clermont?
C'est la seule réflexion.
Il fait pas 14 saisons parfaites. Et pourtant, on l'a jamais remis en cause quand il était à Clermont.
Ce n'est pas la valeur de Franck Azema qui met en cause. C'est celle de l'entraîneur. Actuellement, il est dans la dynamique. Là, ça marche pas. Il a fait une super saison il y a l'an dernier.
Ils se sont maintenus.
Là, ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'était président, le mec qui est en contact, qui est le leader, c'est avant tout le taulier, c'est l'entraîneur. Faut le virer. T'es obligé de le virer pour essayer de provoquer un électrochoc. Quelque chose, ça marche pas. Parfois, ça marche. Sur 2-3 matchs, ça suffit. 2-3 matchs. Hop. Ça se passe bien. Ils sont à nouveau dans le coup. Ils gagnent un match ou deux. Ils sont au niveau de Montauban. Là, ils sont derniers.
Oui.
0 points. C'est jamais vu à Perpignan. Je te dis, je sais pas si, hélas, Franck, c'est un ami à moi, je sais pas s'il aurait pas fallu provoquer ça. Un peu avant.
Eric, qu'est-ce que tu en penses?
Il y a plusieurs. Alors sur le fait que les entraîneurs partent de plus en plus ou qui partent relativement tôt dans la saison, c'est pas nouveau. Nous dans le foot, ça fait un moment maintenant que ça dure.
Au rugby, les coachs,
ça y vient. Les coachs connaissent la règle du jeu et la règle du jeu elle a changé en même temps que leur statut et leur salaire a changé. Je vais dire, moi j'ai connu des coachs quand j'ai débuté ma carrière, tu pouvais rester coach presque toute ta carrière dans le même club ou en tout cas faire de longues périodes dans le même club et tu étais le plus petit salaire de l'effectif. Un coach était pas payé comme ils sont payés aujourd'hui. Leur statut a changé et avec le statut et le salaire, mais je parle de ça parce que pour dire que c'est dans les règles du jeu, quoi. Voilà, maintenant un coach est très 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 bien payé et malheureusement il est jugé très rapidement. Alors après, il y a plusieurs cas. Il y a le cas, mais on peut parler de Franck Gazema, par exemple, qui est là depuis un petit moment. Cette année, le départ est catastrophique. Tu es dernier. Il y a un risque de relégation. Tu es obligé de réagir. Alors moi, je sais pas si c'est trop tard, trop tôt, mais tu es obligé de réagir parce que sinon tu t'enfonces sans rien faire. Et quand tu es dirigeant, président ou directeur sportif, je sais pas ce que manager, je crois que vous avez vous dans le rugby, au-dessus peut-être, tu es obligé à un moment donné de prendre une décision. Pour Habib Bey, il y a plusieurs facteurs. Ne pas oublier que cette année pour le recrutement, il a eu peut-être, je sais pas si Rennes, alors c'est Rennes qui, alors c'est peut-être pas Rennes parce que nous on a beaucoup recruté ici à l'OM.
Et le PFC aussi.
Rennes est une équipe, Rennes et le PFC aussi.
C'est Strasbourg qui a pu se recruter cet été.
C'est Strasbourg.
Si c'était ta question.
C'est ça ma question. Parce que Rennes, malgré tout,
ils ont recruté beaucoup, oui.
Ils ont eu des moyens.
Et Habib, il a eu beaucoup de moyens puisque c'est de tête, déjà Rongier Merlin, mais il en a eu d'autres. Il a eu un bon recrutement qu'il a choisi. Donc là, si tu veux, pareil, c'est une équipe qui est ambitieuse, qui doit être en haut parce qu'ils ont un gros budget. Il faut que ça marche. Alors après, pourquoi lui laisser un match, voire peut-être plus, parce que je crois que pour la prochaine trêve internationale, il y a 3 matchs, Saint-Pierrot, je crois, là. Il y en a un demain, il doit y en avoir un samedi, et un le samedi d'après, et après, il y a trêve internationale. C'est pas ça? Il n'y a pas l'équipe de France derrière? Parce qu'il y a toujours un moment vérifie. Pour... Il y a toujours un moment. Quand tu as le feu et que tu es dernier, bien sûr que tu te dis que chaque journée qui passe est une, peut-être une journée de trop. Donc là, tu fais vite.
À Franck Gazema.
Voilà. Alors que peut-être pour Habib, malgré tout, ils sont dans le ventre mou, ils sont pas en danger, pas encore en danger en tout cas. Peut-être que les dirigeants et le directeur sportif voient que par période cette équipe joue pas mal, mais que parce que ils ont pas pris de branlée là. Hein,
ils n'ont perdu que 2 matchs. Ils ont 2
nuls. Ils ont fait beaucoup de nuls, 5 nuls. Et ils perdent que 2 fois. Donc tu peux te dire aussi que avec tous les nouveaux qu'il y a, la mayonnaise va prendre. Et tu te dis aussi que tu as la chance peut-être de pouvoir attendre 2-3 matchs avant de prendre cette décision qui est quand même terrible. Et donc tu te dis, et puis surtout quand tu changes avant la trêve internationale, bon mais tiens 15 jours quoi, tu vois, le coach il arrive, il a 15 jours devant lui. S'il y a pas beaucoup d'internationaux, il a tous ces gars pour bosser. Et voilà, donc il y a pas de règles. Je comprends que peut-être du côté de Rennes, on veuille laisser encore une chance à Habib. Alors peut-être que c'est un match, mais selon ce qui se passe à Toulouse, s'il faut un bon match, qu'il faut un nul, je suis pas sûr qu'il le dégage tout de suite. Il y a peut-être cette trêve internationale qui peut les ralentir.
Même s'il gagne, il le dégage.
Un Sarah Pitkovski.
Ah, quand même pas, non. En
fait, ah, c'est jamais là, c'est mieux là.
Ah, ouais, non, mais là, non, quand même.
Moi, je me pose la question, en fait, le fait de virer le coach. Oui, non, je te la pose aussi. De virer un coach, c'est la conséquence de quelque chose. Mais les causes, elles peuvent être totalement diverses, que ça soit du foot ou du rugby. C'est soit t'es lâché par tes joueurs qui font pas du tout ce que tu demandes de faire, soit il y a une incapacité du coach à mettre un jeu en place, ou une incapacité du coach d'avoir les bons joueurs pour faire ce qu'il veut faire. Ma question est de se dire, est-ce que aujourd'hui on peut envisager, plutôt que de virer le coach, puisque c'est une conséquence, Non, mais quand ils sont virés, c'est qu'il y a une série de mauvais résultats qui arrivent, ouais. On est bien d'accord. Mais ces résultats-là, est-ce que, à un moment, on prend pas un petit peu au-dessus, et de se dire, est-ce qu'on peut adjoindre quelqu'un?
Oui.
Est-ce qu'on peut pas trouver des solutions avant d'arriver à cette conséquence?
Ils ont trouvé la solution. Ils ont viré le contrôleur Marty. Mm-hmm.
Ils ont viré à Perpignan, ils ont viré les adjoints de
Zema. Marty, ils sont bien.
Okay. Voilà. Et ça n'a pas bougé.
Oui, c'est une solution, tu as raison, oui. Tu peux employer une solution. Mais souvent, c'est des demi-mesures. C'est-à-dire que le président, il a le cul entre deux chaises, il n'a pas envie parce que Franck était un bon entraîneur.
Ça coûte cher.
Ça fait 20 ans, ça coûte cher.
Oui, t'as raison, il y a
l'affect. Et puis, une histoire aussi, je pense qu'ils ont. Il y a de l'affect, oui, il y a de l'affect. Oui. C'est compliqué de virer un mec.
Marty Azema,
c'est des enfants du club. C'est des mecs attachants. Enfin, moi, je les connais personnellement. Donc, c'est compliqué de les virer. Donc, c'est dur. Alors, il vira Marty. Le coup de fouet, n'a pas lieu, parce que c'est le taulier qu'il faut virer, il faut qu'il y ait un taulier qui arrive avec une équipe. Tu vois, je veux te dire, Habib, quand il va partir avec son soigneur Babouloula, il va partir à un moment donné. Ça... Ah
bah, quoi Cédric, supporter de l'USAP, au 30-16. Habib
Loula, non mais quand même.
Sérieux.
Salut Cédric.
Bonjour Cédric.
Kiss My Baby, attends derrière. Il va reprendre.
Salut Vincent. Comment il va Vincent, toi qui connais Franck, très personnellement, je rejoins un petit peu ce que vient de dire Sarah, c'est que on vire un entraîneur, d'accord, mais c'est pas l'entraîneur qui joue sur le terrain.
Oui, mais comment tu fais? Mais mon poulet, on le sait pas.
Comment tu fais déjà? Un sport collectif, t'es quoi? Toi qui connais l'USAP, en plus Vincent, tu sais très bien l'infrastructure qu'on peut avoir ici à Perpignan.
Oui.
Les infrastructures, le problème avec les absents, on a eu énormément d'absents avec beaucoup de blessures. On a des terrains qui sont pas forcément, des terrains d'entraînement qui sont pas forcément conformes à une équipe de top 14. Aujourd'hui, on donne pas non plus les moyens, que ça soit à Franck ou aux joueurs de Perpignan.
Ça,
de réussir en top 14.
Ça, je l'entends. Je sais que l'entraîneur, il a plus dur parce que le budget, il est plus petit, parce que son recrutement, il est plus faible.
Mais ça, c'est pas une surprise.
Mais tu le sais au départ. Franck, il sait très bien que quand il est à Perpignan, il n'est pas Clermont, il n'est pas au Stade Toulousain, il n'est pas au Stade Français, ni au Racing. Ça, il le sait. Bah, ça, c'est vrai, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, ça fait partie du cahier des charges. Le mec, quand il rentre, il est au courant. En plus, lui, c'est son club, Franck. Donc, il le connaît bien, son club. Il va y ramener un maximum de jus, parce qu'il a de l'amour, tu vois, il y a autre chose qui peut combler tout ça. Perpignan a toujours fonctionné comme ça. Et là, ça fonctionne pas. C'est terrible quand ça fonctionne pas, parce que c'est un échec qui est encore plus cuisant quand il y a de l'affectif, quoi.
Merci à Cédric pour son appel au 32-16.
Alors, pour Perpignan, c'est pas encore la solution. Mais
il va falloir beaucoup plus de points pour espérer de sauver une 13e place et une place de barragiste.
Cela dit, pour la Juve non plus, parce que la Juve, c'est pas flamboyant.
On dit pas la Juve, Pierrot, on dit la Juve. C'est Eric Dzimeko qui nous a enseigné ça. Dans un instant, on va parler de ton club, Pierrot.
Allez, le PSG peut-il faire une dynastie? À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Ah, il est déjà 16h30 pratiquement, ça passe à toute vitesse.
Ça y est, on se rapproche à 16h45 dans le journal moyen. Le gros moment, Vincent qui n'arrive pas à dire vitesse à deux invités. Moment incroyable, suspendu dans le temps. Un moment de fou rire incroyable, Pierrot, quand on avait débriefé ça dans le journal moyen.
Mais tout de suite, le PSG peut-il rêver d'une dynastie? C'est avec Luis Fernandez qui était venu nous présenter son livre, son cri du cœur pour son club, le Paris Saint-Germain.
RMC, le Super Moscato Show.
Et c'est terminé sur le score de 7 à 2.
Luis Enrique, votre équipe est leader.
Ah bon.
Quelle est votre analyse et votre sentiment après cette grande victoire?
Ah, tu rigoles quand je mets
Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça?
Je peux te dire que quand on commence à me chauffer, ça va être comme ça, dorénavant, je vous le dis.
Pierre Doucement Dembélé aussi, comment vous avez perçu son retour?
Non, ne dis pas des morts vivants, respecte bien les morts vivants.
Décrivez-nous le but, comme vous l'avez vécu vous sur le terrain.
Vous sentez une forme d'aura du champion quand vous regardez vos joueurs?
Tu me compliques pas, moi. Tu te fous pas de ma gueule, garçon.
Une façon de dire, non, la coupe, elle reste à Paris. C'est un peu ça, non?
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Allez, on parle du PSG qui a impressionné en déplacement à Leverkusen. Victoire 7 à 2. Cette équipe peut-elle rêver d'une dynastie? Alors, c'est-à-dire dominer en Ligue des Champions sur plusieurs années avec plusieurs trophées à la clé, comme l'a fait le Real récemment, ou encore le Milan dans les années 90, l'Ajax Amsterdam, le Bayern Munich. Ça arrive, mais c'est finalement assez rare. Luis Enrique a parlé d'une chose essentielle hier après la rencontre, c'est la confiance acquise par ce groupe de joueurs avec la victoire de l'an dernier.
La chose positive de gagner, quand tu gagnes la première fois, avant de gagner, tu ne sais pas que tu peux gagner. Tous les joueurs, ils savent qu'ils peuvent gagner la Champions League avec le PSG. Il faut continuer sur cette idée. Et on est content parce que cette mentalité que nous avons, on cherche de continuer à améliorer cette idée. Et c'est joli de voir une équipe, un vrai plaisir, et c'est de la fierté quand tu veux jouer une équipe comme ça.
Voilà, quand tu n'as jamais gagné, tu ne sais pas que tu peux gagner. Maintenant, ils le savent. Ouais. Vincent, est-ce que tu penses que le PSG peut rêver d'une dynastie, en gagner deux ou trois?
Tu vois, déjà t'en as gagné une, ce qui est exceptionnel. Ça faisait des années depuis Louis que t'avais pas gagné un trophée européen. Donc à partir de là, tu te dis, ça te donne une confiance. Mais attention, faire un doublé, c'est exceptionnel, c'est très rare. Mais tu te dis que sur 4-5 ans, ben tu peux peut-être en gagner une autre. déjà, tu peux avancer, tu peux te dire peut-être que tu peux en faire une de plus. Après, si tu arrives à la coller, à faire celle que tu as faite, une autre de plus, ben là, t'es un phénomène. Mais quand tu vois le match hier, tu te dis, c'est extraordinaire, parce que marquer 7 buts à Leverkusen, c'est rare, quoi. Donc, on attend avec impatience, parce que tout, qu'est-ce qu'on se dit dans le sport? Eh ben, quand tu gagnes comme ça, tu te dis, ben, en face, c'est pas grand chose. C'est un réflexe que tu peux avoir, qui parfois se vérifie. Mais donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend vite le Bayern, parce qu'on veut voir, Bayern, c'est des équipes qui peuvent dans le dernier carré, donc on veut voir ce que ça fait. Bien sûr qu'ils peuvent être dans les 10 prochaines années, la décennie, nous on parle plus de décennie que de dynastie, dans la prochaine décennie on se dit les joueurs sont vachement jeunes, t'as des mecs comme Doué, même Dembélé qui est peut-être un des plus vieux, qui a 28 ans, ça peut te faire encore 5-6 ans, donc tu te dis que sur les 10 prochaines années, avec ce mec Luis Enrique qui a quand même changer ce club, parce que ça vivotait depuis 10-15 ans, c'était puissant, et ben tu vois, beaucoup de confiance à ce coach, et puis voilà, et puis c'est manager les hommes, et puis j'ai l'impression que les mecs l'aiment, les joueurs l'aiment, donc à partir de là, quand les joueurs, ils aiment un coach, tu peux aller très loin.
C'est une équipe d'extraterrestres, c'est une équipe qui a, on va dire, quand on les voit évoluer, quand on les voit jouer, quand on voit cette équipe, ce collectif, parce que c'est un collectif qui a compris, qui a mis en place un système, une animation. Quand on voit ces garçons courir, quand on les voit participer, quand on les voit avancer, quand on les voit reculer, quand on les voit ensemble se déplacer, réussir ce qu'ils font. Parce qu'il y a...
jamais si tu recules.
Voilà, mais quand tu fais le pressing, il faut y avoir une intelligence dans le jeu, mon cher.
Bien sûr.
Tu sais, il faut être intelligent.
Pour avoir un collectif, il faut être très intelligent.
Ouais, mais il faut être. Tu sais, ces garçons, on n'a rien changé, pratiquement rien, à part l'arrivée de Sabarni. Hein, c'est le seul qui a intégré ce groupe. On ne change pas une équipe qui a quand même réussi de belles choses. Et moi, je pense que cette année, ils sont partis pour faire d'eux-mêmes. Alors, tu peux me citer le Bayern, d'accord. C'est vrai que ce Bayern est en train de montrer de réelles positions. Voilà, en train de montrer des qualités dans leur championnat allemand. Mais est-ce que le Bayern a-t-il déjà battu le Bayern de Leverkusen 7-2? Non.
Le Bayern, ils mettent des cartons quand même.
Il y a deux ans, c'était la meilleure équipe Leverkusen.
Ils mettent des cartons.
C'est pour ça que, attention, moi, ce que je dis, c'est que ce Paris Saint-Germain est vraiment avec des garçons qui n'étant pas là, qui étant de retour, des blessés, je trouve que son turnover à ce Luis Enrique avec cet effectif, avec son staff, réalise un travail remarquable et magnifique. Maintenant, c'est un bon exemple, c'est bien pour le football français, il faut féliciter cette équipe, et on espère que Marseille va en faire de même, voilà, que Lyon va en faire de même, que ces clubs français, Strasbourg la semaine dernière nous a quand même gratifié d'un grand match au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain, il nous a montré comment jouer. Bah, c'est pour ça qu'on attend, nous ce qu'on veut, c'est que le football français soit le plus haut possible dans cette compétition qui est la Coupe d'Europe, et le Pagin en fait partie.
Une dynastie, Denis, ou pas?
Écoute, une dynastie, c'est-à-dire qu'il faut en gagner 2-3 dans les 10 prochaines années, comme dit 5, Vincent.
Ça fait 10 ans, ça dure. Alors, pas 10 ans une équipe
non,
de foot. Hein.
Ouais, c'est pas.
Moi, de foot, c'est sur 3-4 saisons.
Moi, il y a plusieurs facteurs. Je pense que déjà, avec lequel on peut mettre une statue à l'entrée du Parc des Princes, c'est Luis Enrique, quoi. Ils ont trouvé l'oiseau rare, quoi. Enfin, l'oiseau rare.
Il travaille pas tout seul, il a un bon staff à côté, hein.
Tu l'as bien connu, toi, Luis. Ouais. C'est difficile d'entraîner à Paris.
Oui, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir des hommes à mes côtés qui m'ont aidé aussi, hein, voilà.
Et t'as eu de très bons assistants autour de toi.
Voilà, c'est ça.
Et Luis Enrique, là.
Jean-Louis Gasset, notamment, on peut le citer.
Non, pas Jean-Louis Gasset, plutôt, monsieur Pierre Alonso,
Et puis surtout, Yannick Noah,
heureusement, je l'ai interdit d'entrer dans les vestiaires ou sur le terrain d'entraînement. Hein, il a été appelé pour sauver Reims lors de la dernière journée. Ils n'ont pas réussi, mais Luis Fernandez, il a réussi.
Pourquoi je parle de Luis Enrique? Parce que Luis Enrique, même si on l'a critiqué au départ, il savait où il allait. Il a monté sa stratégie, il a monté son collectif. Il a une vraie identité maintenant collective dans ce PSG-là. Et la vérité, c'est que le seul facteur qu'on peut retenir, c'est de garder les joueurs.
Ouais.
Le problème, c'est de garder les joueurs, les jeunes générations qu'il y a chez les Barcola, les Doué. Il faut pas les perdre. Il faut les garder à tout prix. Je dis à tout prix. Après,
Vitinha et Neves aussi. Hein,
Vitinha et Neves.
Jeunes.
Mais moi, c'est vrai que ce PSG, il est extraordinaire. Ouais. Mais surtout, il y a de très grands joueurs.
Ouais.
Le problème aujourd'hui, on minimise le statut de ces joueurs-là. Mm. Les deux latéraux, c'est les deux latéraux qui sont les meilleurs
au monde. Parce que c'est pas des noms très clinquants.
Exactement.
C'est la meilleure défense.
Meilleure défense européenne. Au milieu de terrain, tout le monde ouvrait ce milieu de terrain.
Exactement.
Et devant, t'as Dembélé qui est devenu un extraterrestre, et Doué qui a pris une dimension incroyable. Mmh. Tu te dis, mais faut pas les perdre. T'as peut-être les meilleurs joueurs à leur poste en Europe. Tu te dis, mais il y a tout pour réussir. Il faut que Luis Enrique, évidemment, reste au club.
C'est un collectif qui fonctionne bien, qui marche bien, qui s'entend bien. Et ça, c'est important. En tant qu'entraîneur, tu sais, quand tu avais un groupe qui allait ensemble et qui, certainement, qui doivent manger ensemble, qui doivent sortir ensemble, qui doivent partager le nouveau campus, tu sais, du côté de Poissy, mon cher Pierrot.
Tu le connais un peu?
Il faut aller le voir, hein. Ah, pour le travail, on a
bien aimé.
Il y a
30 ans, 40 ans. Oui, toi, t'étais dans des Algéco, en loge.
Même, il y a pas d'autres entraîneurs qui sont passés après.
On faisait les conférences de presse dans des Algéco à l'époque.
D'autres entraîneurs qui
La dernière chose, je voudrais dire, c'est que j'étais bluffé qu'à 10 contre 10, ils ont repris le contrôle, ils auraient pu se...
Oui, parce que le match peut mal tourner.
Et tout d'un coup, ils ont été encore plus forts à 10 contre 10.
Cécilia, est-ce que tu vois une dynastie pour le PSG?
La question, c'est, peut-il rêver d'une dynastie? Pour moi, non. Il a même pas le droit de rêver d'une dynastie. J'ai un vrai appel à la prudence parce qu'il y a... On se rappelle, il y a moins d'un an, c'était quand même très compliqué. C'est fin janvier qu'on a vu le PSG changer de visage après Manchester City en deuxième mi-temps. Donc moi, j'ai un vrai appel à la prudence, un appel à l'instant présent. Franchement, nous, on a le droit. Nous, on a le droit de kiffer, on a le droit de rêver, on a le droit de penser à une dynastie. Mais eux, l'attitude qu'ils ont sur le terrain, il y a beaucoup de sourires, on en parlait avant que ça soit à l'antenne. On a envie que ça continue, mais instant présent. Juste, voilà, kiffer sur le terrain, continuer à être aussi créatif, mais aujourd'hui, concentrons-nous. À l'instant, sur le terrain.
Mais bien sûr, parce que ça va vite, on
perd vite le fil dans le haut niveau d'un chose qu'on touche l'extraordinaire. On peut, voilà, instant présent. Qu'est-ce qu'on est, où on est bon, où on est fort.
Quand on se souvient, il y a un an, le Paris Saint-Germain démarre mal, très mal. Et il se réveille au mois de janvier, ou par un changement d'attitude ou de joueur.
Changement de position, de Dembélé, arrivé de Kvaratskhelia.
Là, quand tu les vois, il y a un groupe qui est né. Ce groupe qui est né, il est parfaitement bien joyeux. Il est gai, il est joyeux, il a envie de réussir, il a envie de, quand on les voit encore, moi je suis content pour le retour de Warren. Beaucoup me l'ont critiqué. Messieurs, ceux qui l'ont critiqué, reprenez-vous un peu, hein. Parce que le petit Warren, il vous a montré hier qu'il va revenir, il va vite retrouver son meilleur niveau. Voilà, c'est pour ça je dis que ce groupe-là, avec Vitinha.
Moi, là où je peux suivre Cécilia, c'est, l'exemple, il est frappant, c'est celui de Manchester City il y a 2 ans.
Non,
Louis, laisse-moi finir. On les voyait dominer, être capable de dominer pendant 3-4 ans, et ça a volé en éclats.
Et pendant 4, 5, 6 ans, ils étaient dominateurs.
Voilà, ils en ont gagné une.
Oui,
bravo. Et ensuite terminé. Mais à l'époque où ils gagnent, ils sont tellement plus forts que tout le monde, tu les imagines.
Au bout de la 4e, laisse le Paris Saint-Germain faire 4 et qu'ils gagnent 4 Coupes d'Europe et qu'après on pourra se reposer.
Le problème du foot, c'est pas que le terrain. Parce que c'est plus comme avant, Louis, tu le sais très bien. Il y a une fragilité, les clubs sont en fragilité tout le temps, avec l'argent qu'il y a, avec les autres joueurs qui ne joueront pas, qui vont être contactés à des salaires incroyables ailleurs. De garder un groupe très longtemps, c'est très compliqué. Il ne suffit pas que Luis Enrique soit fort et que les joueurs du moment soient forts. Il faut qu'en plus tu recrutes chaque année parce que tes joueurs vont partir. Tes joueurs vont partir.
Il faut bien recruter.
T'as commencé par pas recruter. L'année où t'es champion d'Europe, t'as pas recruté. Déjà, c'est une erreur. Thomas Dapiro, il l'a dit. C'est une erreur de pas recruter. Attention, la fragilité du club, c'est très bien qu'ils peuvent partir en sucette à tout moment.
Vincent, ils ne recrutent pas. Pourquoi? Je vais te le dire tout simplement.
Pour pas casser le groupe.
Non, parce que ce groupe-là vit bien. Et puis en même temps, cet entraîneur est Luis Enrique. Encore un Louis, c'est bon. Il y a Luis Campos, il y a Luis Enrique, il y a que des Louis, il y a que ça qui
peut.
Je suis d'accord. Mais Luis Enrique, il sait que bon, on va pas le changer ce groupe. Il fait le turnover. Ce turnover, c'est las rotaciones. C'est-à-dire qu'il donne du temps de jeu à beaucoup d'entre eux. Comme on a eu l'occasion de le voir encore hier soir. Et ces garçons,
Louis, que la rotation,
non, parce que regarde,
c'est ça qui est compliqué.
Un certain Ramos, il aurait pu demander, messieurs, c'est pour que je sois plus souvent sur le banc, excusez-moi du peu, je peux partir. Ben non, il a resté.
Oui,
il a
souhaité rester, continuer. Le turnover, au point où il le fait, tu perds en qualité quand même. Contre Strasbourg.
Mais forcément, tu
n'avais pas une équipe extraordinaire quand même.
Louis, on en revient au talent qu'il y a dans cette équipe. Non, mais je veux dire, quand t'enlèves 4-5 joueurs majeurs, c'est plus la même équipe. Je suis désolé, c'est Pierrot qui le dit, mais moi je suis entièrement d'accord avec lui.
Ce qui est à la fois normal, c'est qu'il faut aussi gérer. Ce que je leur reproche, c'est que le 11 est très fort, mais l'an dernier, ils ont gagné à 14-15 joueurs. une équipe, un collectif, c'est plutôt une vingtaine de joueurs. Tu vois, regarde, quand tu parles de rotation, l'an dernier, en Ligue des Champions, il n'y en avait pas de rotation. Hein. C'était les 14-15 joueurs,
Tu suis la Ligue des Champions. Mmh. Bah, regarde un peu ces clubs qui peuvent éventuellement être des adversaires. Par exemple, le Barça. Avec les blessés qu'ils ont, ils n'ont pas les bons remplaçants. Le PSG peut avoir des blessés et ils ont les bons remplaçants.
Mais c'est bons remplaçants. Je ne suis pas d'accord avec toi.
Mais c'est pas, regarde, tu prends le petit Lee. Anguilli, tu prends le petit Warren,
oui,
tu prends.
C'est pas la même.
Ah oui, mais ils sont là, ils sont présents.
En tant qu'entraîneur
que j'ai été, tu sais, un entraîneur démarre, commence une saison. Il met en place, il tente de mettre quelque chose. Ensuite, une fois que la saison se termine, tu peux éventuellement sortir dire que cette saison, ça ne s'est pas bien passé parce que tactiquement, techniquement, des éléments n'avaient peut-être pas leur place ou peut-être on s'est peut-être trompé. Mais on attend. Ah, et là, au mois de janvier, il y a eu un tournement, un roulement, on va dire, de rotation et de mettre Ousmane Dembélé.
Ousmane,
rotation.
Dis-moi, Louis, c'est pas Louis Saint-Tac, là, c'est le
Louis, sur lequel jamais personne n'aurait prédit qu'on serait champion d'Europe.
Paris SG, cet amour que j'ai pour toi. Louis Fernandez aux éditions Hugo Sport. L'attachement que tu as pour ce club. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce livre après la victoire en Ligue des Champions? C'est un aboutissement? C'est un point final à quelque chose?
Non, c'était quelque chose qu'en réalisant ce parcours, c'est exceptionnel. J'étais vraiment, comment te dire, dans le, en les voyant jouer, en s'exprimant, en réalisant ce qu'ils étaient en train de réaliser. Je me dis, c'est quand tu vas au parc et que tu vas pour ce match Liverpool et qu'ils perdent 1-0, je me suis levé, je les ai applaudis aussi parce que je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas logique. Et il y a eu une certaine logique au match retour, ils ont retourné le résultat. Et durant ce parcours, on les voit revenir, on les voit jouer, on les voit s'exprimer, on les voit réaliser, on les voit mettre des buts en mettant des jeux avec vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on veut voir. Oui, j'étais ému, oui, parce que
cette épopée.
Tu te dis c'est un collectif, ils sont tous ensemble,
L'entraîneur du Paris Saint-Germain de 94 à 96 avec une finale de Coupe des Coupes gagnée de 2000 à 2003, tu étais sur la pelouse avec M6 pour commenter la rencontre. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti toi, Louis?
J'étais une fierté, j'étais heureux, j'étais content, j'étais fier. J'étais avec Rai, avec Yuri pendant le match, je l'ai vécu avec Rai et je peux dire qu'on s'est levé à chaque fois on s'est levé pour les applaudir parce qu'ils étaient en train de nous faire un match sans faute en jouant remarquablement bien, en étant dans le pressing, en étant dans la récupération, en s'exprimant et on les voyait se courir et à un moment donné, à la 80e, il y a 4-0, Varaskelia qui te fait un aller et qui te fait un retour pour récupérer le ballon. Tu te lèves, tu applaudis. Voilà,
j'imagine que tu t'identifies à cette équipe, Louis.
Je m'identifie parce que j'ai toujours prôné, pour moi, c'est toujours une priorité, le collectif. Le collectif, c'est tous être ensemble, le vivre ensemble, que ce soit dans une semaine, dans une préparation à un match. Il faut être ensemble pour réussir à gagner ensemble. Il faut pas qu'il commence à y avoir des têtes ou des personnages qui veulent peut-être en faire un peu moins que certains.
Tu fais deux parallèles à ce sujet. D'abord, Dembélé Ronaldinho, c'est-à-dire Dembélé qui est sorti du groupe pour le match contre Arsenal en début de saison.
Ouais.
Tu t'es revu un peu avec Ronaldinho à l'époque?
Non, avec Ronaldinho, c'est l'entraîneur, c'est Luis Enrique qui a su remettre Ousmane pour Dembélé, qui a su le remettre dans le bon droit chemin pour essayer de le remettre, tu sais, dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions. Moi, avec Ronaldinho, la première année, ça a été une première année exceptionnelle où il a été remarquable par son attitude, son comportement. Il nous a éblouis, il nous a fait de prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement de semaine en semaine, que ce soit en match. Et ensuite, il y a eu
deuxième année.
Mais la première année, on a quand même réussi avec la reconnaissance vis-à-vis d'un staff avec lequel j'ai travaillé.
La deuxième année, c'était plus ça.
Oui, mais parce que je lui demandais d'être reconnaissant vis-à-vis de ses coéquipiers qui l'ont quand même aidé à devenir champion du monde. Quand même, la première année, il devient champion du monde. Et à tous ceux qui sont toujours en train de dire Ronaldinho sur la touche, non, Louis Fernandez, ne souhaitait pas mettre un joueur qui peut te faire gagner des matchs sur la touche. C'était même.
T'as été très critiqué pour ça. Tu en as souffert, tu le regrettes ou pas?
Non, mais j'en ai un peu souffert parce que à cette époque, tu sais, je n'avais pas un directeur sportif à mes côtés. J'avais un président qui était, le président qui a quand même laissé passer. Beaucoup de choses et je vais pas me mettre à dire tout ce que j'ai pu avaler et alors c'est pour ça que je préfère mieux me taire
L'autre parallèle que tu fais alors c'est une équipe que peut-être le grand public connaît moins c'est celle de Gérard Houllier, le PSG de 86 champion de France pour la première fois. Tu fais un parallèle entre le PSG d'Houillier
et le PSG de Luis Enrique.
Ah oui, c'était remarquable. On avait, tu peux voir, cette année-là, c'était merveilleux. Quand tu es le capitaine d'un groupe avec lequel tu prends un plaisir, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit en dehors, et que ce soit la semaine, quand tu vois M. Péassona, M. Gérard Houllier, parce que M. Gérard Houllier, faut aussi le savoir, c'est un entraîneur français qui a gagné une Coupe d'Europe avec Liverpool, quand même aussi. Et ce Gérard Houllier, c'était un monsieur qui est arrivé de Lens, qui est arrivé du côté, avec son côté, où il a su nous mettre, ou avec son côté humain. Non, mais avec, tu sais, ces échanges, tu sais, d'essayer de nous faire comprendre, de nous mettre en place. Et quand tu le voyais, les séances d'entraînement avec Gérard, et le groupe est né, il y a eu une solidarité, il y a eu une bonne ambiance. On est resté quand même quelques mois invaincus pour aller chercher ce premier titre de champion de France. Et j'en suis fier, j'en étais encore
Vincent,
avec eux.
C'est compliqué de gérer un cas comme Ronaldinho. Ultra talentueux, pas très sérieux. Qu'est-ce que tu fais?
Mais tu le fais péter comme tu fais Louis, parce que t'as un groupe à tenir et que le mec n'a pas de privilèges. Et Louis a bien fait. Moi, j'aurais fait exactement pareil. Il a bien fait parce que qu'est-ce que tu leur dis aux autres? Qu'un mec qui fait n'importe quoi comme Neymar et tout. T'es dans un collectif, t'as pas 11 mecs, t'en as 25. Et lui doit donner l'exemple puisque c'est un des meilleurs joueurs. Et lui fait tout le contraire. Il te donne pas l'exemple. Il fait le contraire de ce que tu dis parce que il pense, alors je pense que c'est un gentil mec, mais inconsciemment, il le sait qu'il est au-dessus des autres. Donc il en abuse, il tire sur la ficelle. Un mec ne doit pas jouer parce que c'est le meilleur. Il doit être le meilleur sur le terrain et en dehors du terrain. Et en plus, quand t'es le meilleur, t'as des devoirs envers les autres. Voilà, t'es un leader naturel. Donc t'as eu raison, Louis.
Mais
t'as eu
deux exemples qui ont été faits, c'est M. Tourol, quand Kylian Mbappé est arrivé en retard à une causerie.
Et Adrien Rabiot.
Jamais de privilège.
Et le deuxième, il ne l'a pas fait, c'est M. Andy Flick, l'entraîneur du Barça. Andy Flick, avec le cas de Lamine Yamal. Ouais. Il ne l'a.
Alors attention, parce que je ne sais pas s'il l'a pas fait.
C'est le directeur sportif qui est venu lui demander de ne pas le sanctionner, de le laisser sur le terrain.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il y a un règlement, et le règlement, il est le même pour tous. Et le règlement, il faut l'accepter.
Mais c'est la faute de Deco, la faute de Flick.
Non, mais Flick, il doit prendre les devants.
Il doit le faire quand même.
Oui, il doit le faire quand même, parce que sinon, les autres te regardent.
Il sera viré. Alors, Louis, je vois le temps qui passe, mais il faut absolument qu'on te parle d'un truc, parce que à la fin du bouquin, parce qu'il y a les feignants, qui vont pas jusqu'à la fin du bouquin.
Dis-moi.
À la fin du bouquin, il y a quelque chose de très, très important pour l'avenir.
Vas-y.
Pour l'avenir de Louis.
Futur de Louis.
Pour l'avenir de l'équipe de France.
Ouais.
Et pour l'avenir de Zinedine Zidane, que tu as bien connu à la SCAN.
Il a démarré avec moi, à mes côtés, et c'était mon ramasseur.
Alors,
il était juste derrière moi.
Je lis page 133.
Vas-y, dis-moi vite.
Je pourrais être le Campos de Zidane.
Pas Campos, pas directeur sportif.
C'est écrit comme ça.
Ouais, mais bon, c'est mal fait.
Pas grave. Donc, tu expliques que si Zidane prend l'équipe de France, tu te verrais bien à ses côtés.
Comme j'ai eu l'occasion de lui dire, tu sais, lors de la remise de la Légion d'honneur, tu sais, aussi d'une Légion d'honneur, tu étais là, tu vois, comme quoi Fernandez,
il est quelqu'un qui est important, bien sûr.
Mais bon, à ce moment-là, il était là, Zidane, il est venu, ça m'a fait un plaisir énorme qu'il se déplace. Il est venu de Madrid, il s'est déplacé comme certains autres, et je ne le remercierai jamais autant. Bah, je lui dis, tu as commencé ta carrière avec moi, j'aimerais bien la finir avec toi. C'est pour ça que si reprend l'équipe de France, il a besoin d'un quelqu'un, pas adjoint, je veux pas être adjoint, moi.
Tu le reprends ramasseur de balles.
Non, je vais pas me remettre au ramasseur de balles, je vais mettre dans son côté, dans son staff, travailler avec lui.
Le lien entre le staff et les joueurs,
avec les joueurs, tout ça, c'est ce qui me plairait, parce que je pense que.
Ouais, mais t'es pas largué au niveau du foot maintenant, parce
que ça va plus vite.
Combien de matchs par semaine, Louis? Dis-nous la vérité.
J'étais entraîneur de chevaux, je te prendrais.
Cette idée,
entraîneur de chevaux, c'est pour Pierrot Dorian.
Non, mais cette idée, c'est possible de l'avoir un jour arrivé?
Je vais essayer de voir.
Interdit rien en fait.
Non, mais Zizou, c'est quelqu'un qui compte énormément, qui est quelqu'un avec lequel j'ai eu l'occasion de le recroiser, d'être ensemble. C'est un bel exemple pour le football. Zizou, ça restera toujours ce garçon qui sort de ce club qui est là. Iscan, la semaine prochaine, on a un match, le match des légendes. C'est le jeudi 30. Soyez tous nombreux à Stade Pierre de Coubertin. Moscato ne jouera pas. Vous
pouvez venir.
Il ne jouera pas. Dans l'après-midi,
il y aura Johan Mikou.
Il y a Didier Deschamps qui sera avec l'équipe. On va essayer de battre l'équipe de Didier Deschamps. Il y aura tous les anciens joueurs de l'ASK.
Zizou sera là.
On va essayer de faire
Patrick Vieira.
Patrick, on va faire un bon moment. T'inquiète pas. Ça va être.
T'as eu la Légion d'honneur.
Oui, j'ai eu. Ils se sont trompés aussi. Là aussi. Je vais la rendre. D'accord.
C'est rare parce que souvent, il la donne à ceux qui ont perdu leur honneur. Le seul moyen de la retrouver, c'est qu'ils te la donnent. Donc, c'est bien.
Merci beaucoup, Louis Sarr. Si vous voulez vous faire.
Merci,
vous aimez le PSG. Si vous aimez
Louis.
Merci. Tu parles aussi d'un amour pour Cannes, pour l'Olympique Lyonnais. Tu dis bien de l'OM dans ce livre.
T'as pas trouvé la chanson de capitaine?
Ah, je sais pas, je l'ai commenté.
Ah, la voilà. Capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi, j'y crierai. J'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a toi pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner.
Bravo Louis,
bravo Louis. Plus haut, plus haut, plus haut, on va nous élever.
Paris Saint-Germain, cet amour que j'ai pour toi.
Appelez en sécurité, appelez en sécurité s'il vous plaît.
Grand Louis, on n'est jamais déçu avec
on
vous.
Aime Louis Fernandez et on lui souhaite joyeux Noël.
Ce débat, on l'a fait ensemble. Voilà.
Bon, salut Louis Fernandez, légende,
on lui souhaite un joyeux Noël à Louis.
Et du foot français.
Allez, dans un instant, c'est le grand moment, c'est le premier cadeau de Noël de la soirée sur RMC.
RMC, jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Vous écoutez RMC, c'est le Super Moscato Show.
On y est, Pierrot, le cadeau.
Et si vous nous avez bien écouté depuis 15h, normalement, vous êtes tous réunis. Là, vous avez suspendu votre activité de Noël pour les minutes qui arrivent pour écouter ce qui restera peut-être l'un des plus grands fous rires de l'année sur RMC. C'est parti pour le Journal Moyen, deuxième édition.
La deuxième édition, on va visiter Pluton. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ouais. Tu nous diras.
Pas grand-chose.
Très joli service après-vente de Vincent avec de belles nouveautés, Pierrot. Je sais que tu n'as pas loupé cette défaillance sur le mot vitesse hier. Et c'est incompréhensible. Là, j'exigerai des explications parce qu'il y a des trucs, maintenant, il faut les expliquer. Vous allez vous expliquer.
Les en avance, il faut les expliquer. Pourquoi vous avez fait en avance?
Vous allez finir avec un bracelet électronique. Hein, ouais. 16h55, première citation du Kikadi du jour. Aïe. Ce sera chacun pour soi pour la première. Vous écoutez RMC, c'est le 2412e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le Journal Moyen. Deuxième édition.
J'ai écouté le passage antenne hier entre Estelle et Vincent, 14h55, avec un Vincent très fin, très distingué, très classe avec Estelle, comme d'habitude. Bon. Vincent doit annoncer la présence de notre invité, le joueur de rugby Maxime Lucu. Vincent a la flemme de trouver une bonne vanne. Donc Vincent, très fin, ça se mange sans fin.
On aura Maxime Lucu qui
sera... Ah, super! Ah, bah oui!
C'était le centre, ouais.
Non,
mais non!
Vas-y! Je ne connais pas! Allez, vas-y! Bon, écoute, non, là, c'est possible!
On reviendra sur la défaite du PSG!
Voilà, ça, c'est fin, ça se mange sans fin! Ah, bravo, oui. Estelle, qui a une patience extraordinaire!
Ensuite... Moi, elle a démarré de rire, j'avais rien dit!
Ah, oui, bah, elle savait où tu allais!
J'ai dit, tu l'aimes, toi, lui!
15h30! On accueille Maxime Lucu. Et là, Vincent, les M et les N, ça devient n'importe quoi. Écoutez la façon dont Vincent dit bonjour à Maxime Lucu.
Nous sommes avec un invité de Marc, en direct de Marcoussis. C'est oui. Maxime Lucu, le demi-de-mêlée de Bordeaux et de l'équipe de France.
Mais c'est un honneur, monsieur Maxime, de vous recevoir dans notre émission.
Salut Maxime.
Il y a rien qui va.
Imaginez si on additionne quelques dernières saucisses de Vincent quand il accueille Maxime Lucu, ça pourrait donner ça dans l'absolu, on sait jamais, hein.
C'est un honneur, monsieur Maxime, de vous recevoir dans notre émission. Je ne me souviens pas de ce que vous avez
dit. Bip, voilà, c'est ma personne, monsieur Lucu.
Tu as dit motre édition. Regardez Suzanne, j'ai vu qu'elle pleurait de rire.
Je l'ai vu, je
n'ai pas halluciné.
Adrien n'avait pas bougé. Adrien n'avait pas bougé, il n'avait pas vu non plus. Je savais que. Personne n'avait bougé.
Nouveauté chez Vincent.
Putain, ouais, j'ai vu Pierrot.
Nouveauté un peu lunaire chez Vincent. Alerte nouveauté. Ils sont en pleine mer. Voilà, la Transat Café L'Or. Nos invités sont en pleine mer. Franck Camins et Tom Laperche, qui ont gagné la compétition d'ailleurs. Vincent va leur parler de vitesse. C'est intéressant, la vitesse sur l'eau. Fermez vos micros, savourez, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mon délecte à la voix.
Vincent ne dit pas vitesse, il dit autre chose, et je ne sais pas pourquoi. Il va falloir vous expliquer, monsieur Moscato.
Franck Camins et Tom Laperche sont proches de la victoire dans la catégorie ultime. Et ils sont en direct avec nous. Salut les gars.
Un grand mois, quoi.
Comment ils vont ?
Salut !
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Salut à vous ! Ça va bien à bord du Trimaran SVR Azartig ?
C'est bien ou quoi ? Vous êtes bien là ? Vous avancez, nous ça nous impressionne. À quelle vitesse ? À quelle vitesse ça vous avance ?
À 30 nœuds de vitesse.
À quelle vitesse ? Ils te respectent pas, Vincent. Je me passe rien. Vous me passez rien, quoi. ils sont moins débiles que vous, hein. Comme ça, vous t'avez compris.
C'est le deuxième qui est exceptionnel.
C'est devenu vitesse.
La première fois, tu hésites un peu, tu fais un truc bizarroïde. Ouais. Et la deuxième fois, tu l'envoies, mais net. Il est net, vitesse.
Ils ont compris.
Suzanne me force, elle me dit, parce que pour les gens qui n'ont pas bien écouté. On le repasse, mais en vitesse.
Vous avancez, nous ça nous impressionne. À quelle vitesse vous avancez?
Moi ça me bute.
Vitesse, j'avais pas bien capté au début.
Oh merde,
quoi. C'est un norvégien, non?
C'est un norvégien, oui.
Pourquoi tu le dis deux fois? Comment tu dis vitesse avec ça?
Vitesse. Des restes de l'image qui remontaient.
Ouais, bah écoute, c'est pas grave.
Après, c'est pas très grave. Non, mais ils ont compris, ils sont moins nuls que vous.
Ils ont compris, ils sont passés entre
vous. Ils ont pas rigolé comme vous, là.
Non, on a ricané, on n'a pas rigolé.
Non, mais c'est trop bon.
Sans transition, merci Vincent.
Merci Vincent.
Et merci pour ta patience.
Merci beaucoup.
Merci la vie.
Un jour, il va me crever.
Ah ouais, t'as un coup de pompe dans la bouche, il ramène pourquoi.
Sans transition. Ça fait 20 ans. Et bravo Eric, vous avez été très bon. J'ai écouté l'after.
Le Big Bang, je suis pas spécialiste de
géophysique.
Voilà. C'est deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la Terre, quoi.
Alors j'ai adoré, après la défaite de l'OM face à l'Atalanta, j'ai adoré les trois points de Daniel Riolo. Les trois points dans l'after, c'est au tout début de l'émission après un match. En une minute, chaque membre de l'after annonce mais rapidement les trois points essentiels qu'il voudra développer par la suite dans l'émission, dans les débats. Daniel, il a choisi une tactique, Eric c'était présent, tactique radicale. Daniel Riolo, les trois points suite à la performance de l'OM hier.
Daniel, tes trois points, Eric ensuite.
Premier point, je ne comprends plus. Deuxième point, je ne comprends pas. Troisième point, je ne comprends rien.
Je ne comprendrai plus jamais.
Écoute, voilà. La suite.
C'est tout, ce sont mes trois points sur la prestation de l'OM ce soir. Et celui qui me parle d'arbitrage ce soir, c'est un blaireau. Je le dis tout de suite.
Ah, là, Daniel, on est mal parti.
Celui qui parle d'arbitrage, j'ai une main.
C'est surtout que tu penses bien que moi, j'avais quand même mon troisième point, c'était quand même sur ça, tu vois. C'est quand même un fait de match. Donc le mec, d'entrée, c'est interdit.
Du grand Daniel. T'as pris des précautions après Eric, t'as entendu. T'as dit, bon, je vais me faire engueuler par Daniel, mais je voulais.
Oui, je pouvais pas ne pas parler.
C'est un duo qui a de la longévité avec Daniel, Eric. Daniel envisage les conséquences d'une non-qualification dans la Ligue des Champions, sortir de la phase de Ligue. Pour lui, les conséquences seraient très graves, mondiales, même plus que mondiales, Vincent. Non. Daniel, de la mesure.
Et on a eu le tout petit Brest. Ils sont sortis.
Oui. Tout se passait.
Ils sont sortis. Donc, si l'OM ne sort pas de ce truc-là, c'est une honte intergalactique.
Ah ouais,
je pense que même sur Pluton, ils en parleront.
Voilà.
Tellement c'est la honte.
Ah ouais, sur Pluton, ils en parleront.
On est dans la demi-mesure, mais ça. Des fois, on passe qu'on exagère dans cette émission, mais non.
Oula. Ah ouais, là, ça va loin. C'est X-Files. C'est impressionnant. C'est la science-fiction. Ah, Pluton, non, mais c'est vrai quand même qu'hier, quand même, c'était incroyable. Quand même, c'est faible.
Il y a deux choses. Une, la prestation n'est pas bonne, l'attitude n'est pas bonne.
Et puis,
ce qui est incompréhensible, mais on va en parler à 17h30, c'est le contraste entre ce qu'on voyait il y a ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines, et aujourd'hui. Mais c'est fou.
Dans l'enchaînement Paris-Strasbourg.
Je vais te dire, dans la théorie, il va se faire virer en novembre ou en janvier. Je vais te dire qu'ils ne vont pas se faire trop tard. Parce que moi, je pense que là, c'est responsabilité, parce que là, c'est pas possible. Là je pense que c'est plus l'homme de la situation.
17h30 dans le Super Moscato Show.
La veille de Noël.
Tout de suite, la première question de Kikadi.
Vous avancez, nous, ça nous impressionne.
J'avais dit Kikadi, Suzanne. Elle est joueuse, Suzanne.
Non, mais Suzanne.
J'ai une petite théorie. J'aime bien, moi. Je suis désolé. J'aime bien. C'est Sylvain qui a peut-être une explication. Il dit Vincent, il pense vitesse maritime, nœud. Il a le mot nœud en tête.
Vitesse nœud.
WhatsApp, 06-12-424-424.
Écoute, j'ai que ça comme défense. Je dis oui, Pion. Oui,
Pion.
J'ai que ça comme excuse.
Ah, peut-être c'est Neuneu.
Voilà.
Écoute-moi.
C'est pas gentil. Mais moi, je suis vous n'avez pas été très beaucoup à mon égard. Vous n'avez pas été beaucoup les uns les autres à mon égard.
C'était trop bon. Et je revois Vincent physiquement qui nous voit nous marrer. On est sous la table. Croisez les bras. Alors, quand Vincent croise les bras, c'est qu'il n'est
pas très content.
Il n'est pas très content. Voilà. Il est un peu vexé. Il nous regardait à droite, à gauche en disant mais vous foutez de ma gueule.
Il fait toute la différence dans cet exploit. Oui. C'est le doublé.
Oui, c'est la confirmation.
La première fois, bon. Première fois, tout le monde accroche.
À quelle viteuse ?
Mais la deuxième fois, il appuie sur le viteuse. À quelle viteuse ?
Il ne sait toujours pas pourquoi il a dit ça. Pierrot, on va parler de tennis entre 17 et 18 heures.
Le bilan de la carrière de Gaël Monfils. Ensuite, Yo-Yerline César, vice-champion du monde de boxe olympique. Et enfin, les Bleus et le Stade de France. Est-ce une obligation ? Tout ça, c'est avant le Kikadi. Et ça arrive juste après les infos de 17 heures sur RMC.